a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast. Je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, comédien, mais ici, je te présente des personnes que je trouve inspirantes et ou remarquables. Pour être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonne-toi à la plateforme de ton choix. Bonne écoute.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 19. Pour le retour des remarquables, je suis heureux d'accueillir une femme assez incroyable. Après une première carrière de comédienne, qu'elle continue, elle s'essaie en 2016 à l'écriture et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après plus d'une centaine de représentations de sa pièce, c'est une vraie réussite. Je te parle ici de Gardienne et de son auteur et interprète, une femme de combat et de talent, avec plusieurs S, Fanny Cabon. Fanny, bienvenue.
Merci.
Comment ça va ?
Moi, ça va bien.
Il y a une tradition, il y a plusieurs traditions d'ailleurs, dans le Lloydcast. La première, généralement, c'est « qu'est-ce que tu as envie de boire ?» Mais là, comme on est face à face et que tu m'as offert un verre d'eau, est-ce que dans l'absolu, quelle est ta boisson préférée ?
Alors, en fait, j'ai toujours problème avec le préféré parce que j'aime tellement la vie que j'aime plein de choses. Alors, je vais donner mes boissons préférées. J'aime beaucoup le thé, j'aime le kéfir et j'aime le jus d'orange frais.
Alors, avant de parler de Gardienne en détail et de pourquoi tu l'as écrit, etc., etc., ce que j'ai envie de partager un petit peu avec toi, c'est que tu nous donnes un petit éclairage rapide de ton parcours de comédienne, parce que si j'ai bien lu, tu as commencé jeune.
Oui, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé vers les 7-8 ans. En fait, alors pas professionnellement, mais avoir un rapport au théâtre. En fait, j'aimais beaucoup les animaux. Et dans la rue, j'ai croisé une vieille dame avec un caniche, assez moche d'ailleurs. Et j'ai caressé le chien et elle m'a regardée. Et elle m'a demandé si je voulais faire du théâtre. Et en fait, c'était une Roumaine échappée politique qui là-bas avait un théâtre. Et donc, elle m'a dit... est-ce que tu veux faire du théâtre ? Et comme je suis toujours partante, j'ai dit bah, pourquoi pas. Et j'ai fait comme ça mes premiers cours de théâtre dans son appartement après l'école. J'allais chez elle et vers les 12-13 ans, elle m'a fait faire déjà un premier spectacle devant 300 personnes. J'ai fait un monologue du Cid et un monologue d'Andromaque à 13 ans.
Voilà. Ah ouais ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu as ressenti justement à ce moment-là ?
Une grande peur. Je crois que ça a été le plus grand trac que j'ai jamais eu. Mmh. Voilà. Et je crois qu'après ce trac-là, je peux en avoir plein, c'est pas grave. Voilà, j'ai eu le pire tout de suite.
Et est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit, tiens, c'est quelque chose que je vais embrasser ? Est-ce que tes parents suivaient un peu ta démarche ?
Alors, c'est assez curieux parce que maintenant, avec le recul, je crois que je n'aurais pas pu faire autre chose. Donc, sincèrement, je crois que c'est le métier qui me correspond le plus. Après, j'ai eu peut-être la chance que tout m'amène toujours à ça. J'ai eu cette dame que j'ai croisée dans la rue, mais je prenais après adolescente, le train, le métro. Il fallait toujours que je me retrouve face à quelqu'un qui était de ce milieu-là et qui me proposait aussi de faire des choses donc dans ce milieu. Donc, j'ai même pas eu, en fait, à me poser la question. Et je pense même que c'est presque un manque parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont voulu être comédiens et qui se sont battus, qui sont partis et qui ont quitté famille, village ou ville pour aller à Paris tout seul. Et j'ai pas eu ça et ça m'a enlevé en fait ce qui m'a manqué longtemps, c'est la hargne et c'est pas que j'avais pas de motivation, mais je suis là, je suis à ma place, je me laisse porter. Et ça c'est un métier où il faut avoir, il faut s'imposer, il faut les castings.
Ah, il faut s'imposer dans les castings, après dans l'envie d'être comédienne. Par exemple, pour toi, j'ai l'impression de ce que tu me racontes, ça a été plus évident qu'autre chose.
Oui. Mais du coup, voilà, moi, dans les castings, quand je me retrouvais face à des comédiennes où je sentais qu'elles étaient prêtes à tout pour avoir ce rôle, j'avais envie de dire, prends-le, je me bats pas. Voilà. J'ai du mal à me battre. Voilà, la notion de me battre contre ne me correspond pas. Donc, je dois déjà me battre avec moi-même, c'est déjà beaucoup. avec toujours après moi l'envie de m'enrichir. Donc j'ai pris des cours de théâtre, j'ai fait des stages, je faisais tout plein de choses de ce type-là. Mais c'est vrai que voilà, j'ai fait plein de pubs, j'ai fait des téléfilms, j'ai fait des séries, j'ai fait un peu de cinéma. J'ai quand même fait principalement du théâtre.
Est-ce que tu penses que dans ces cas-là, ton métier, tu l'as plus appris sur le tas, sous forme d'expérience directement, plutôt qu'un cursus de cours de théâtre, enfin, quelqu'un qui aurait fait Florent, Périmonie, Simon, etc., et qui après va commencer à faire ses premières armes sur des petites compagnies ou dans des petits castings. Toi, très vite, tu t'es retrouvé à devoir interpréter des personnages sans forcément d'un entre guillemets d'un vrai background via des cours à droite à gauche.
Bah, je prenais les cours en même temps.
Tu prenais les cours en même temps, ouais.
Ouais.
C'était quoi comme
par
cours?
Exemple, je suis partie en tournée théâtrale avec Robert Manuel. C'était une pièce avec plein de il y avait Jean-Jacques, il y avait Madeleine Barbulé, il y avait Jacques Baudouin et il y avait Robert Manuel. Donc toute une clique de vieux de la vieille de théâtre. Et moi, j'avais 16-17 ans et je suis partie tourner avec eux. Et c'est vrai que quand je me dis, bon, ben voilà, je repars avec quand même, c'était des monstres de théâtre à l'époque, il faut que je bosse. Donc, je prenais des cours de théâtre et tout ça pour pouvoir continuer à progresser. Mais c'est vrai que j'ai appris aussi beaucoup en travaillant. Je n'ai jamais perdu mon statut d'intermittent, je n'ai jamais arrêté de travailler.
Est-ce que justement, te retrouver face à des personnes qui avaient effectivement beaucoup d'expérience, c'était pas plus là que tu apprenais d'ailleurs, tu sentais pas davantage.
Ce sont des super profs. Ouais. C'est vrai que tu apprends énormément avec ces gens qui ont une expérience incroyable. Robert Manuel était un ancien prof du conservatoire, enfin voilà, donc ils m'ont énormément appris. Et puis le public t'apprend, enfin, quand tu as la chance d'être en tournée théâtrale comme ça si jeune, enfin, tu apprends très vite justement à sentir le public, à sentir une salle, à écouter ton instinct et à progresser après aussi techniquement, mais forcément.
Et après tout ce temps, justement, on y arrive. Donc c'est en 2016, si j'ai bien suivi, qu'est née l'écriture de gardienne, ou peut-être que tu écrivais d'ailleurs déjà avant, j'imagine, peut-être. Mais pourquoi d'un coup écrire un spectacle?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est effectivement, c'est une pièce que j'ai écrite pour rendre hommage aux femmes de ma famille que j'aime beaucoup et que j'admire par rapport à leur parcours. Et c'est vrai que c'était des femmes simples, populaires, et qui disaient toujours, enfin, il y en a une en particulier qui disait « Oh, il faudrait qu'on écrive un livre. » Et ce sont des femmes qui n'auraient jamais écrit un livre. Voilà. Et donc, il arrive un moment, j'ai eu envie, et je me suis dit « Si quelqu'un, enfin, s'il doit y avoir un livre, il faut qu'on leur écrive. » Et donc, je vais leur écrire. Donc ça a commencé comme ça. Après, le sujet est quand même un peu lourd par rapport à cette pièce et je pense que c'est pas un texte que tu peux écrire quand tu as 20 ans ou même 30 ans. Donc il m'a fallu un certain temps de maturation. Et puis, encore une fois, de maturité, de prise de conscience de beaucoup de choses. Moi, gardienne, je remercierai jamais autant cette pièce. Elle m'a fait grandir. Tu parlais tout à l'heure de personnes qui m'ont fait évoluer. Cette pièce, et donc grâce à ces femmes que j'ai connues, m'ont vraiment fait évoluer d'une façon incroyable. Parce que, je manque beaucoup de confiance en moi. Donc, il y a toujours cette crainte assez féminine de ne pas se trouver à sa place. Le syndrome de l'imposteur, voilà. Et comme je disais, je me laissais un peu porter donc par qui voulait bien de moi, parce que manquant de confiance en moi, voilà, on s'impose pas et on prend qui veut bien nous prendre. Et donc pendant longtemps, j'ai pas eu la carrière que je voulais, j'ai eu la carrière qu'on voulait me donner. Ce qui m'a pas empêché de beaucoup travailler, de rencontrer des gens formidables et de faire de belles choses, hein. Mais à aucun moment c'était un choix. Et cette pièce, je ne me suis pas donné la chance au départ de l'écrire. J'ai demandé à des auteurs de me l'écrire. Et j'ai rencontré plusieurs écrivains, des copains qui pouvaient être scénaristes. Enfin, j'ai vraiment rencontré plusieurs personnes. Et à chaque fois, je leur disais, voilà, il y a une pièce que je voudrais faire. Est-ce que tu pourrais me l'écrire? Et je parlais de cette pièce et j'ai eu à chaque fois la même réponse, un silence après que j'ai parlé et un « mais Fanny, c'est toi qui dois l'écrire cette pièce ». Et donc la première fois, tu dis « oh, mais qu'est-ce qu'il raconte ? De toute façon, je ne suis pas auteur, je suis comédienne, ça ne s'en prend pas, c'est un métier, enfin moi je ne saurais pas faire, ça. » Le deuxième, le troisième, on commence à se dire « mince, qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir que j'écrive ?» Et puis, surtout, tout le monde me disait non, quoi. Et il y avait cette urgence, il y avait un moment, cette pièce devait exister. Et donc, j'ai fini par dire, bon, bah, et puis merde, j'y vais, je me lance. Donc, merci à eux d'avoir refusé aussi, parce qu'ils m'ont donné, en fait, l'opportunité de me prouver à moi-même que j'en étais capable, en fait.
Ces auteurs, c'était des hommes ?
Oui, c'était des hommes parce que je ne connais pas en fait beaucoup de.
D'auteuses, d'autrices.
D'autrices, ouais, ouais, de théâtre en tout cas. Et voilà, et je me suis mise à écrire cette pièce. Alors, ça a été long donc, parce qu'il y a eu tout ce temps de maturation. Il y a eu toute la période où après j'ai voulu quand même interviewer donc mes tantines, tout ça. Et puis il y a eu cette urgence de la mort. C'est-à-dire que quand elle. Tant qu'elles étaient toutes là, par exemple, ma grand-mère, c'était une fratrie de 6 filles et un garçon, ils étaient 7 enfants. Et ces 6 filles, ben, je les voyais tout le temps, elles étaient là, quoi. Et puis, ma grand-mère est morte. Et je me suis dit, mince, pour ma pièce, ben, j'aurai mes souvenirs, mais je ne vais pas pouvoir l'interviewer. Et puis, il y en a une deuxième qui est morte. Et une troisième, c'est très touchant parce que je lui avais dit, bon, je veux faire une pièce sur votre vie, tout ça. Donc, je vais t'interviewer. Et je la vois quelques semaines après, elle me dit, écoute, bon, avant l'interview, j'ai bien réfléchi et j'ai écrit un cahier. J'ai commencé à écrire un cahier avec un peu ma vie, tout ça, j'ai réfléchi à tout ça pour que te donner des choses avant que tu m'interviewes. Et elle est morte 15 jours après. Et donc, ce cahier, j'y tiens beaucoup. Parce qu'en fait, elle m'a fait un très beau cadeau. Elle est morte, c'était pas du tout prévu, puisqu'elle a fait une crise cardiaque. Et là, je me suis dit, attends, sur les 6, il n'y en a plus que 3. J'ai déjà perdu trop de temps et il faut que j'y aille. Et donc là, je me suis mise vraiment. J'ai vu que voilà, cette procrastination où on remet toujours au lendemain nos envies, nos désirs. Et c'est de la peur, hein. C'est de la peur de d'être dans l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable, qui fait que tu as toujours une bonne raison pour remettre au lendemain.
Alors, ce qui est drôle, je fais une toute petite parenthèse parce que les gens nous écoutent, ne voient pas, mais dans les 20 secondes que tu viens de me faire, ta tantine, j'ai revu le spectacle. Rien de cette manière de dire cahier. C'est là aussi que tu es une extraordinaire comédienne. Moi, quand j'ai vu ce spectacle l'année dernière, Gardienne, ça parle du ventre des femmes.
Oui.
Je schématise, hein, bien sûr, puisque c'est une pièce qui va parler depuis les années 20, je crois.
Un siècle de femmes, oui.
Un siècle de femmes et autour de l'avortement.
Et de la maternité.
Et de la maternité.
Le rapport aussi au couple.
Oui, il y a les hommes aussi, il y a beaucoup de thématiques, mais c'est vrai que comme par rapport à l'affiche, il y a les aiguilles à tricoter, tout ça, forcément, on revient très vite sur le côté maternité et avortement, puisque ces aiguilles à tricoter sont le symbole de quelque chose d'assez violent à l'image.
Mais en fait, ça s'est imposé, parce que moi, je voulais faire une pièce sur leur vie. Et on se rend compte, malheureusement, c'est qu'avant la loi Veil, ben, la vie des femmes se réduisait, pour la plupart, à leur ventre et à leur maternité, voulue ou pas, et à terme ou pas. C'est-à-dire que toute leur vie tournait autour de cette problématique-là. On ne leur laissait pas vraiment de place pour le reste. Hein. Il ne faut quand même pas oublier qu'on donnait des médailles sous Pétain aux femmes qui faisaient beaucoup d'enfants parce que c'était service à la patrie quand même. Donc voilà, donc à partir du moment où elle tombait amoureuse jeune, dès le premier rapport sexuel, elle risquait de tomber enceinte. Et à partir du moment où elles avaient leur première grossesse, ça impliquait des choses dans leur vie. Soit elles prenaient le risque de mourir en ne gardant pas cet enfant, soit elle gardait cet enfant et voilà, ça voulait dire ne plus travailler, être mère au foyer pour la plupart, etc.
À quel moment tu t'es dit, je vais assumer d'aller dans cette intimité ? Il y a déjà l'intimité de tes tantines qui te racontent toi aussi, d'une certaine manière, puisqu'on a hein, l'arbre transgénérationnel, etc. Et à quel moment tu te dis, tiens, et aussi à un moment, je vais peut-être donner légèrement la clé de ce pourquoi aussi de ce spectacle, de moi, de ce que j'ai traversé aussi en tant que femme.
Je sais pas, je crois que tout s'est un peu imposé à moi, et puis c'est aussi une forme d'honnêteté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dévoile la vie, l'intimité de personnes qui ont existé, même si effectivement c'est romancé, c'est vu sur mon prisme, c'est poétisé à des moments, y arrive un moment, on peut pas dire, je mets à nu des personnes comme ça, et je vais pas le faire avec moi-même, donc sur ce sujet-là. Et puisque ce qui est très important pour moi aussi dans ce spectacle, c'est le lien transgénérationnel, c'est ce nœud, cette transmission qui passe, cet ADN. On sait maintenant qu'il y a une mémoire cellulaire, hein, et donc je ne pouvais pas parler de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, de ma mère, et puis s'arrêter là. Enfin, ça aurait été pour moi une forme de lâcheté, donc il fallait que j'aille jusqu'à moi. Voire jusqu'à ma fille, et pour que la boucle soit bouclée.
Combien de temps d'écriture il y a eu pour cette pièce ?
Je ne sais pas. J'ai envie de dire des années dans ma tête, parce que moi, j'écris beaucoup dans ma tête, et une fois que je couche sur le papier, ça va relativement vite.
On se ressemble.
Et puis après, une fois que ça a été écrit, entre la première écriture, voilà, la première écriture, ça faisait 70 pages, ça faisait à peu près 1h50 de spectacle. Le spectacle que je joue maintenant fait 1h15, donc il y a beaucoup de choses qui ont été. Le travail, il s'est fait aussi là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel, je pense que la première mouture, il y avait peut-être plus de colère. De sentiment d'injustice pour certaines choses que j'exprimais, où là j'étais beaucoup plus présente. Et au fur et à mesure, j'ai senti la nécessité d'effacer tout ça, d'abord parce qu'il y avait de moins en moins de colère. Je pense que c'est, ouais, y a un travail hein, qui se fait inconscient. Et puis, l'importance pour moi de ne surtout pas être dans le jugement, de ne surtout pas dire au public ce qu'il avait à penser ou ce qui était bien ou mal. Moi, c'est un témoignage, ce sont des faits, et à eux, au public, de penser et de ressentir ce qu'il veut, quoi.
Et après, comment tu as travaillé effectivement tous ces personnages ? Tu les as travaillés avec le metteur en scène en disant, voilà, je le vois, il est comme si.
J'ai mon chat qui fait des gros câlins.
Voilà. T'es venu en imposant quand même finalement des images, ou est-ce que le travail dans ces cas-là du metteur en scène était plus de travail de scénographie et de trouver une cohérence ?
Au départ,
parce que je dis ça parce que c'est quand même, pardon, je te coupe, mais c'est beaucoup de choses qui viennent de toi. Oui. Donc quand on appelle un metteur en scène, c'est aussi pour qu'il vienne raconter sa propre histoire un petit peu. Donc c'est difficile de trouver l'équilibre, effectivement, et trouver sa place.
Oui, au départ, moi je voulais même un metteur en scène femme, une metteuse en scène, parce que je m'étais dit, voilà, c'est un spectacle de femme, et puis je suis impliquée, et je considérais qu'on ne peut pas critiquer le fait qu'il n'y ait pas assez de place pour les femmes dans notre profession, et surtout en tant que metteuse en scène et tout ça. Et puis après, dire, bah, moi je suis la première à passer par un homme. Donc la première personne qui a lu mon spectacle, c'est un ami metteur en scène, qui est celui qui m'a fait la mise en scène, en fait. Qui m'a tout de suite dit qu'il voulait me mettre en scène, et je lui ai dit bah oui, mais je voudrais le faire avec une femme. Et j'ai cherché, j'ai rencontré plusieurs metteurs en scène femmes, alors qui pouvaient être très bien, hein, talentueuses, tout ce qu'on veut, mais ça n'allait pas. Et ça n'allait pas, je crois aussi, parce que comme on parlait de femmes, elles se sentaient impliquées en tant que femmes et voulaient mettre leur point de vue, leur jugement, tout ça. Chose que je ne voulais surtout pas dans ce spectacle. C'est ce que je viens de dire avant, hein. Je voulais que ça reste neutre par rapport à ça, un regard bienveillant. Et puis, c'est une histoire quand même très personnelle, donc c'était important pour moi que ça reste, qu'on respecte cette intimité dévoilée. Et j'ai fini par passer par Bruno de Saint-Riquet, qui est un homme formidable et un metteur en scène de grand talent. Il me connaît bien, qui est un ami et qui, du coup, m'a dit à un moment, mais tu sais, Fanny, t'as pas besoin d'être mise en scène, t'as simplement besoin d'être accompagner sur cette pièce. Et je savais qu'avec lui, il y aurait un respect de mes aïeuls et de moi-même, de tout ce qui se passait, de mes ressentis et de toutes les idées que j'avais aussi de ce spectacle. Je voulais un spectacle très simple. C'était des femmes simples, populaires. Je ne voulais pas une mise en scène ostentatoire, voilà, où on voit la mise en scène de partout. Et
elle est très belle.
Quelque chose de magnifique. Ouais,
oui, elle est très belle, elle est très pensée.
Très pure, et... très esthétique, avec juste très symbolique. Mm. Ouais, il y a le symbole des couleurs, il y a le symbole, il y a des objets.
Pour le coup, il n'y a qu'une vraie couleur.
Oui.
Le noir, ce n'est pas une couleur.
Mais il y a des symboles aussi, des objets symboles pour chacune d'entre elles. Mm. Et ça me correspond énormément parce que... voilà, la force des symboles pour moi est quelque chose de très important. Je trouve qu'en un mot, qu'en un symbole, on dit beaucoup de choses. Et je voulais pas que ça soit un spectacle explicatif. Voilà, je crois en l'intelligence du public.
Il y a beaucoup de spectacles depuis quelques années. Alors, d'ailleurs, plutôt principalement des femmes, d'ailleurs, si pour parler d'Andréa Bescon, pour parler de Noémie Caillot, et donc pour parler aussi du tien, puisqu'il y en a, voilà, on va parler effectivement de la pédophilie, du cancer, toi, de, comme tu vas dire, de la maternité, mais aussi de l'avortement, aussi des femmes battues, tu en parles aussi, et là, on est encore plus dans l'actualité, dans la triste actualité. Est-ce que tu penses que je suis pas très à genrer en permanence, comme tu disais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, c'est très féminin, je suis pas d'accord, parce que moi-même, c'est quelque chose avec, c'est une chose avec laquelle je lutte souvent, mais est-ce que tu penses que les femmes, dans ces cas-là, ont plus de facilité à venir se raconter à travers un spectacle et des choses sur des sujets difficiles?
Peut-être. Peut-être, effectivement, moi non plus, j'aime pas trop genrer. Je pense qu'il y a des hommes qui en sont tout à fait capables et des femmes qui n'en sont pas capables, et tout ça. Mais bon, si on fait les généralités, je crois que, encore une fois, en tant que femme, on est dans nos tripes très vite, très jeune. Notre corps se rappelle à nous régulièrement et on nous accorde une chose, c'est le droit aux émotions qu'on accorde plus difficilement aux hommes, ce qui fait que les femmes vont plus facilement parler entre elles, exprimer leurs émotions, ce qu'elles ressentent, et du coup on a un rapport à l'intime qui est moins tabou, on parle plus de nos vies, et je pense que ça aide peut-être à faire ce chemin-là, à parler de l'intime plus facilement. Et puis, je crois que les femmes, oui, on est quand même courageuses parce que la vie nous impose ce courage. Hein. Un accouchement, bon, ben voilà, t'es face au précipice, il faut y aller. Hein. et ça nous apprend quand même beaucoup de choses. Et donc, je crois qu'il arrive un moment, en tout cas, actuellement, il y a un élan vers des femmes qui osent y aller, sauter, sur parler des choses graves. Je trouve que c'est un moment extraordinaire par rapport à ça. Je ne crois pas qu'il y ait plus de viols, qu'il y ait plus d'inceste, qu'il y ait plus... Je crois qu'enfin on en parle et que la parole est ouverte et que c'est primordial parce que pour l'instant c'était caché, ça ne voulait pas dire que ça n'existait pas et au contraire... C'était même normalisé. Et là, d'un seul coup, la liberté de la parole fait qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui sont inacceptables et qui ne doivent pas continuer.
Par rapport à Gardienne, maintenant, on en est à plus d'une centaine de représentations.
J'ai dépassé les 150. Ouais.
150 représentations. Tu es en tournée aussi.
Oui.
J'imagine que sur un spectacle comme celui-ci, il y a forcément le public parisien et ce qu'on appelle le public de province. Je n'aime pas dire ça, mais je pense que quand on va aussi en province, moi, c'est ce que je préfère personnellement. Parce que déjà, les gens, c'est une autre démarche que d'aller en province, d'aller au théâtre, parce que je vois toujours, moi, sur mes propres tournées, tu as des gens qui viennent un petit peu en dimanche et c'est une vraie sortie. À Paris, c'est vrai qu'on regorge de théâtre partout et qu'à la limite, il faut qu'on se force pour sortir, alors que souvent en province, c'est des gens qui viennent. Et voilà, exactement. Et J'imagine que ton spectacle suscite beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions fortes, mais dans le bon sens du terme, j'entends. Est-ce que tu dois avoir à la sortie beaucoup de retours de femmes,
Et
ou même
d'hommes.
d'hommes comme moi?
Oui, énormément. Et en fait, j'ai découvert mon spectacle grâce au public. Je crois que moi, j'ai tellement baigné dans ces histoires toutes petites que je n'en prenais absolument pas. Je ne prenais pas conscience en fait de l'impact, de la gravité, de ce que ça impliquait, dans le sens où, comme elle disait elle-même, hein, toute m'étendue, elle disait, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, bon, bah, c'est comme ça, ça doit être ça un peu pour tout le monde, bon, bah, on ne va pas en faire un fromage. Et j'ai été élevée comme ça. Et du coup, j'ai écrit cette pièce, bon, bah, voilà, je parlais comme elle voulait, un livre, puis il faut que ça sache quand même, parce que les jeunes générations maintenant, elles n'ont pas forcément conscience de tout ça. Et c'est le regard du public qui m'a fait prendre conscience de l'impact que ça avait, de ce que ça impliquait, de ce que cela voulait dire. C'est un peu comme, je sais pas, je vais peut-être faire un parallèle qui est pas juste, mais c'est comme si quelqu'un qui a été violé, mais on tout à fait bien fait comprendre que oui, bon, ben voilà, ça arrive à d'autres, et puis tu l'as un peu cherché quand même. Bon, ben on finit par l'intégrer, et puis dire oui, bon, ben c'est pas très grave, et puis j'en verrai d'autres, et puis, et en fait, non, non, si, c'est grave, non, ça n'est pas normal, et oui, ça a impliqué des choses importantes. Et c'est vraiment le public qui m'a fait prendre conscience de ça, et là, à Paris, comme en province, il n'y a pas une représentation où je n'ai pas des gens qui pleurent, qui me prennent dans les bras à la fin du spectacle, qui ne me donnent pas des témoignages. J'ai des témoignages très très forts d'hommes comme de femmes. Il n'y a pas une représentation. J'ai des gens qui me disent merci, merci de nous avoir donné la parole, merci d'avoir donné la parole à ces femmes. Je me suis retrouvée. Et puis voilà, d'une histoire particulière qui est celle de ma famille, je ne prenais pas conscience à quel point je parlais d'universel, parce que chacun se retrouve dans cette pièce, et ça je l'ai découvert par ce qu'on me dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est tout ce public qui vient à moi, et c'est un cadeau merveilleux qu'ils me font après, et j'essaye d'être pareil, digne de leur confiance. Je vois des personnes qui restent dans le fond, qui veulent me parler, mais tout seul, donc je les vois de coin de l'œil, donc au fur et à mesure je parle, et puis je vais venir vers eux parce qu'il y a des gens qui ont besoin de me parler, mais tout seul. Il y a d'autres gens au contraire qui ont besoin qu'on parle plus d'un côté militant, c'est-à-dire que à la fin de chaque spectacle, je dis aux gens que ceux qui veulent, je suis disponible et qu'on peut parler ensemble et de la condition des femmes. Je leur fais prendre conscience, parce que beaucoup ne le savent pas, qu'actuellement, dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'avortements illégaux. Voilà, qu'on en est encore là. Et il y a un petit débat comme ça sur les droits des femmes. Et je ne sais jamais ce que ça va être à chaque fin de spectacle, mais je suis toujours disponible pour ça. Et du coup, après le spectacle, je reste au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure avec les gens. Hein. Il y a toujours des gens qui restent longtemps. Ouais.
On reviendra juste sur ça, sur l'aspect engagement et politique rapidement, mais il y a un petit personnage dans le Lloydcast, c'est une petite souris. Alors, elle va vite faire gaffe, la petite souris, parce qu'il y a quand même deux chats ici. Mais la petite souris, en fait, elle regarde une journée de mon invité. Et si cette petite souris devait te regarder sur une journée, qu'est-ce qu'elle verrait de la part de Fanny?
Elle verrait que heureusement que je fais ce métier et que je ne suis pas dans un bureau, parce que les horaires bureaux ne me conviennent absolument pas. Donc elle verrait qu'en général, je ne dors pas avant les 2-3 heures du matin. Et après, mon meuble préféré, c'est mon lit. Donc je passe beaucoup de temps dans mon lit. J'adore la journée où je ne travaille pas, alors, où je ne travaille pas, s'entend, où je ne touche pas un cachet. Je vais me lever, je vais faire mon petit déjeuner, que je vais mettre dans mon lit, je vais mettre plein 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 de choses dans mon lit. Je prends alors de quoi manger, de quoi lire, un
Et tu écris?
ordinateur portable, et je vais lire, puis écrire, puis manger, puis tricoter. Puis il faut que je puisse faire 50 000 activités comme ça, mais dans mon îlot. Et puis, à bout d'un moment, j'en ai marre. Hop, je me lève et puis je vais me mettre à marcher, à faire du vélo.
Votre lit, c'est pas un 140, c'est un 200.
c'est un 160. Il est déjà bien grand. Mais voilà, par exemple, l'écriture, j'aime être dans mon lit parce que je peux y passer des heures, c'est ça. Je ne sors plus et je prends... j'ai de quoi manger, j'ai de quoi faire. Et puis, j'ai besoin tout le temps, par contre, je vais très vite, mais j'ai besoin de changer tout le temps. Donc, il arrive un moment... voilà, si j'ai écrit pendant une demi-heure ou si j'ai appris un texte pendant, voilà, je vais apprendre un texte, je vais apprendre une page ou deux d'un coup en 10 minutes, mais après il faut que je fasse autre chose très vite. Donc j'ai besoin d'avoir plein d'activités comme ça, un peu au même moment pour passer de l'une à l'autre sans cesse.
En gros, elle serait vraiment peinarde au chaud avec toi sous la couette à bouffer un petit peu de fromage que tu lui ferais de temps à autre cette soirée.
C'est ça, on a un gros câlin mon chat.
Oh là là. Alors, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, le théâtre, tu penses que c'est une question, je connais très bien la réponse, mais est-ce que le théâtre est un outil qui peut servir pour des luttes?
Oui, pour moi, c'est une évidence. Le théâtre est là, mais l'art en général, hein, pas que le théâtre. On est là pour divertir, certes, et d'ailleurs, il y a de l'humour et du rire dans Gardienne, mais on est là aussi pour éveiller les consciences. Je crois que le théâtre est là pour apporter du libre arbitre, pour apporter du questionnement, pour apporter aussi des connaissances, de l'instruction. On ne peut pas avoir de libre arbitre et on ne peut pas avoir un jugement juste si on ne sait pas. Donc on est là pour... voilà, le fou du roi, on est là pour être fou du roi aussi, pour dire tout haut ce qui se pense tout bas. On a une liberté incroyable en tant qu'artiste. Il y a plein de choses qu'on peut se permettre qui ne seraient absolument pas possibles ailleurs, dans les messages à donner. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que je parlais que Gardienne était vraiment pour moi un cadeau. C'est que j'ai quand même avant eu une carrière où voilà, j'ai fait des pièces, mais comme je me laissais porter, c'était pas forcément des pièces qui correspondaient, moi, ni à mes engagements, ni à mes... ni à ma sensibilité, même si ça m'apportait quelque chose. Et là, je me sens à ma place et dans ce pourquoi j'ai fait ce métier aussi. Mais j'ai essayé de le trouver partout. Je vais donner un exemple bête, mais je fais une pub pour des yaourts. D'un seul coup, il y a dans le test, il y a « Ah oui, mon garçon, il aime bien les yaourts. » Bon, bah, j'étais capable pendant plusieurs minutes de voir le client en disant « Enfin, mon garçon me pose un souci, excusez-moi, mais enfin, on n'est pas dans la possession. On est maman, on n'a pas un garçon. » Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible plutôt de dire « Ah, donner le prénom du gamin quoi. » Alors, il me regardait toujours un petit peu bizarre, parce que bon, on est effectivement dans la pub, mais je crois
Comment ça, une comédienne qui a un cerveau là-haut? C'est énorme. Je veux juste qu'elle dise « Mon garçon, il aime le yaourt. »
Oui, c'est ça, mais puis ça avait l'air d'être le problème, enfin, tout le monde s'en fout. Et je disais « Non, non, tout le monde s'en fout pas, parce qu'on dit des choses. » Et l'air de rien, par la publicité qu'on va voir, vous rendez bien compte que quand là, on parle de la notion de possession de nos enfants. Il devait se dire, elle est complètement tarée, celle-là. Mais c'est pas grave, je l'avais dit, j'essayais au moins.
Quelle est, toi, ta définition du féminisme?
Pour moi, le féminisme devrait être un non-sujet. Nous sommes dans une humanité. Donc l'humanité, pour moi, n'est pas genrée et devrait, ça ne devrait pas être un souci, ça. Et je ne comprends même pas la question être pour ou contre le féminisme. Le féminisme, c'est quoi? C'est simplement demander une égalité de droit entre les hommes et les femmes. Il est où le problème et il est où le sujet? C'est-à-dire que je ne conçois pas même qu'en 2020, on puisse trouver normal que les droits ne soient pas les mêmes pour des humains, simplement parce qu'ils ont une quéquette ou une nénette. Voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas de sujet. Alors, on retrouve ça aussi ailleurs, hein, que ça soit pour l'égalité par rapport à nos couleurs, si on est noir, si on est beurre, si on est ce que je veux. Mais le problème, c'est que même dans les noirs et dans les beurres, il y a quand même encore une différence entre les hommes et les femmes.
Justement, toi, par rapport au mouvement MeToo, est-ce que tu t'impliques? Comment tu t'impliques?
De toute façon, c'est simple. Je crois que dès qu'on est femme, on est forcément emmerdé de ce côté-là. Donc, je crois que les chiffres sont là. Hein. C'est quasiment 100% des femmes ont eu à un moment donné une agression.
Dans le métro, c'est 100%.
Que ça soit verbal, que ça soit ou physique. Donc, étant femme, oui, j'ai vécu ça. Après, c'est un peu comme avec mes tintines. C'est ce qui est terrible, et c'est ça qu'il va falloir déconstruire. C'est que c'est tellement intégré, même dans l'esprit des femmes, que bah, en tant que femme, bah, oui, tu te feras emmerder, qu'on finit par normaliser ça et dire bah, c'est pas très grave de se faire siffler dans la rue, c'est pas très grave d'avoir des réflexions dans la rue, effectivement, c'est pas grave parce que déjà, t'as pas été touchée ou t'as pas été plottée ou. Mais non, ça n'est pas normal. Et quand j'entends la liberté d'importuner, mais de quoi on parle, quoi? Non, on n'a pas à emmerder l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la drague. Moi, j'ai toujours fait la distinction dans le métro entre quelqu'un, un homme très respectueux qui vient me voir, souriant, absolument pas agressif ou s'imposer en disant « je vous trouve très jolie, mademoiselle » et qui continue son chemin ou qui me dit juste « est-ce qu'on peut prendre un pot ?» Je lui dis oui, je lui dis non. Et quand je lui dis non, il me dit « bon, bah, pas de souci, passez une bonne journée. » Très bien. Je veux dire, il n'y a pas de problème, ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on y a des hommes qui disent « on n'aura plus le droit ni de draguer, ni de rien faire ». Enfin, le consentement, c'est juste ça, c'est cette notion d'accepter, de respecter que l'autre puisse avoir envie ou pas envie, parce que cette agressivité, elle est énorme. Entre des mecs qui, comme ça, ont l'air, vous sourient dans la rue, vous font un compliment et vous disent « ouais, ah, t'es jolie, on prend un pot ou quoi », et tu dis non, et qui, du coup, te traite de salope. Enfin, je veux dire, d'un seul coup, à partir du moment où tu as dit non, tu as le droit à l'agressivité. C'est ça aussi qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas des choses et on a le droit de ne pas avoir envie. Parce que tout est bon. Je veux dire, alors soit d'un seul coup, on devient moche et con, ou on a un gros cul, alors qu'on était juste sublime la minute d'avant, ou alors on peut être taxé de raciste, parce que si jamais on est dragué par quelqu'un de couleur et qu'on dit non, bah, on nous traite de raciste, mais c'est incroyable, enfin, c'est du perdant-perdant, c'est quoi qu'on fasse à partir du moment où on dit non, c'est qu'on est coupable, de tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça, c'est pas normal.
Ah, tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup de luttes, et je crois que la lutte doit passer par l'éducation, peut-être aussi des plus jeunes aujourd'hui. Non, mais l'éducation, elle est générale. Oui. Évidemment, des petits garçons, d'apprendre à respecter une femme.
Parlons d'humanité. Ouais. À partir du moment, pour moi, le féminisme, les hommes ont tout à y gagner. Et quand on comprendra que c'est une affaire d'humanité et pas seulement une affaire de femme, alors ça ira mieux. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple tout simple. Moi, je participe des fois, je fais du théâtre aussi d'entreprise et je fais des formations sur l'égalité homme-femme en entreprise. Et on constate quoi ? Ben, que les hommes, par cette inégalité, sont privés d'énormément de choses par rapport au familial. Un homme doit terminer tard le soir, on va mal prendre dans une entreprise qu'il refuse la réunion à 18h ou à 19h, alors que ça sera accepté pour une femme. Ça aussi, c'est anormal. Combien d'hommes ont été privés de leur vie de famille parce qu'ils font des horaires pas possibles au boulot et que du coup, voilà, ils ont pu payer des super études à leurs gamins, mais leurs gamins, ils n'ont pas vu beaucoup leur papa. Et si on arrivait à une égalité homme-femme au niveau du travail, alors ça serait l'égalité salariale, oui, mais pas que. Ça serait aussi une égalité dans le temps, avoir le droit de prendre un congé papa et de pouvoir profiter de son bébé. Ça serait la possibilité de partir à 5 heures parce qu'on a nos enfants qui finissent et aller chercher à l'école aussi en tant que papa. Et je crois que les hommes ont beaucoup à y gagner aussi. Et là encore, pourquoi faire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre ? Des hommes sont malheureux, beaucoup, par cette image de l'homme qu'ils doivent traîner, de cette virilité qu'ils doivent affirmer quand, effectivement, tu es avec une bande de potes et que tous les potes sifflent la fille, bon, bah, tu te sens un peu obligé. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ne se retrouvent pas forcément là-dedans non plus. Donc, accorder aux hommes leur droit à leur féminité, leur droit à leur paternité, à leur tendresse, à leurs émotions, c'est important aussi. Quand on parle d'égalité dans les sexes, c'est aussi tout ce qu'on accorde aux femmes, l'accorder aux hommes. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne leur accorde pas aux hommes. Je ne crois pas que ça soit facile non plus d'être un homme. Et quand on parlait voilà d'un gardien de mes tantines, les hommes de ma famille, franchement, c'était pas formidable non plus. Parce que quand on se retrouve avec des femmes qui, à chaque rapport sexuel, risquent de mourir, bah, elles deviennent frigides, elles ont pas du tout envie de ça. Donc on est dans le devoir conjugal, c'est du viol conjugal pour les femmes, c'est atroce, d'accord. Mais là aussi, tous ces hommes qui se retrouvent avec des femmes qui n'ont jamais envie, qui n'ont aucune sensualité, qui vont être des planches de bois dans un lit, franchement, je pense que c'est quand même plus agréable d'avoir une relation sexuelle avec une femme qui est dans le désir, qui a envie de caresse, qui va en donner, qui est, voilà, et sans aller, voilà, la relation de mes oncles, ils pouvaient avoir ça avec la prostituée, quoi, avec cette notion de cochonne. Enfin, je suis désolée, mais on peut avoir une sexualité épanouie sans être une professionnelle du sexe et sans être, enfin, ce truc très habituel, hein, où la femme, de toute façon, ça doit être ou la pute, ou la vierge, ou la madone. Bon, c'est quand même très limitant. Et je trouve que c'est pas terrible pour les hommes non plus. Enfin, je me mets à la place d'un homme, j'aimerais bien que ma femme ne soit ni pute, ni madone, ni vierge, qu'elle soit simplement une femme avec du désir, avec de l'amour et un truc plus simple, quoi.
Oui, puis c'est aussi un ensemble. Enfin, je veux dire, je pense que on peut être tout ça aussi à la fois. Dans un rapport sexuel, on peut être autant amoureux que d'un coup laisser parler sa bestialité dans la seconde, etc.
Encore une fois, c'est simplement changer de prisme. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de fonctionner comme ça, je crois qu'ils ne prennent pas conscience. Et que si l'homme qui, comme ça, laisse sa femme tout faire, je suis sûre qu'il est convaincu et sincèrement amoureux et qu'il ne se rend pas compte que ça n'est pas respectueux ce qu'il fait. Et donc, simplement, ouvrir un peu les œillères et se rendre compte, prendre du recul et se dire « Ouais, c'est vrai que c'est pas cool ou c'est pas normal. » Et que si ma femme faisait moins de temps de ménage, de cuisine, elle en aurait peut-être plus pour moi aussi. Elle serait moins fatiguée, donc moins râleuse, non plus agréable. Et donc, même la vie de famille, encore une fois, tout le monde y gagne. Et ça n'est pas qu'un l'intérêt féminin. Moi, j'en suis convaincue que tout le monde a y perdre à rester dans ces systèmes-là.
On va terminer.
Oui.
Avec, parce que je pourrais continuer des heures avec toi pour parler de ça, parce que c'est la voix de la sagesse. J'aime beaucoup, malgré ces colères qui t'habitent aussi, mais il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur. Je termine toujours ces Lloydcast avec une série de questions. Si tu gagnais au loto, quelle serait ta réaction ?
Bah déjà, je serais assez étonnée parce que comme je joue quand même très 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 peu au loto, je passe mon temps à dire « Oh, si je jouais au loto, je m'achèterais un théâtre, mais comme je ne joue pas, j'ai quand même peu de chance que ça m'arrive. » Mais bon, ça m'est arrivé deux, trois fois de prendre un billet. Donc, si je gagnais au loto, oui, je crois quand même que égoïstement, je m'achèterais un théâtre. Mais pour y faire travailler plein d'artistes et pour faire avancer les choses. Et puis après, je crois que j'aurais beaucoup trop d'argent et que j'essaierais après de le rendre utile pour d'autres que moi.
Est-ce qu'il y a un livre, un film, une peinture ou quelque chose qui a changé ta vie ?
Qui m'est marqué, oui. Pas forcément d'ailleurs de manière forcément positive, mais voilà. Vol au-dessus d'un nid de coucou est un film qui m'a énormément marqué parce que voilà, j'ai un oncle qui est handicapé mental suite à un accident de voiture. Et voilà, à 4 ans, j'étais dans des hôpitaux psy pour aller le voir. Et c'est vrai que c'est un milieu qui me fait, qui me touche beaucoup et qui me fait aussi un peu peur, enfin voilà, qui me concerne. Quels sont alors bizarrement Même moi, je m'étonne quand je dis ça, mais il y a un livre qui m'a énormément, un auteur qui m'a énormément touchée quand j'étais adolescente, c'est Bernanos. Alors, j'ai beaucoup de spiritualité, mais je ne suis pas religieuse. Mais cette notion de doute qu'il traite dans ses livres m'a énormément touchée aussi. Voilà, mais beaucoup de gens trouvent ça imbitable, Bernanos, et peut-être que si je le relisais là, je me dirais, mon Dieu, mais comment t'as pu être touché par ce bouquin ? Mais pour l'instant, voilà, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Des livres comme 1984, ces livres, oui, pour, la notion de libre arbitre est très importante pour moi, donc voilà. Et j'aime Gaudi.
Si tu faisais pas ton métier, tu ferais quoi ?
Si je faisais pas mon métier, je ferais quoi ? Ben, je serais bien dans la merde. Je ferais plein de choses. Parce que même avec mon métier, je suis incapable de ne pas faire plein de trucs et m'intéresser à tout et n'importe quoi. Il me faudrait un métier qui me permette de toucher à plein de choses et continuer à apprendre et à apprendre. C'est ce que ça m'apporte, moi, d'être comédienne. Donc, il faudrait un autre métier qui m'apporte ça aussi.
Ton plus bel échec ?
J'aime pas parler d'échec parce que pour moi, il y a des erreurs. Et dans erreur, on entend errance. Et l'errance, c'est la recherche. Et qui ne cherche pas, ne trouve pas. Et donc, je pense que chaque erreur qu'on fait dans la vie nous permet d'avancer et de progresser. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie qui m'ont à chaque fois fait avancer. L'échec, pour moi, c'est quand justement, on ne voit pas la leçon dans l'erreur et qu'on reproduit ce qu'on a déjà fait. Là, ça devient un échec.
Ton endroit préféré au monde, en dehors de ton lit. C'est peut-être ton lit, remarque.
Oh, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé. Quel dommage de se réduire à un endroit préféré. J'ai plein de belles images.
Il y a un mot américain qui s'appelle le motto, qui est en gros, quelle est ta devise ou ton mantra qui peut-être quotidiennement t'aide à avancer comme un moteur.
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et tout problème est un cadeau. Ça me nourrit pas mal. Et puis, le troisième, peut-être, c'est qu'est-ce que tu as à perdre ? Je crois que très, très souvent, on n'ose pas faire des choses. Et si on prend le recul en disant, mais qu'est-ce que je risque vraiment ? On risque toujours beaucoup moins que ce qu'on pensait. Et moi, ça m'a toujours beaucoup aidé à dire, allez, j'y vais.
À partir du moment où on sait qu'on peut perdre beaucoup de choses, on a tout à gagner.
Oui, et souvent, on a déjà le nom en poche, donc pourquoi ne pas essayer l'oubli ?
Alors là, je vais terminer par ça, mais je sais très bien que tu vas me dire, bah non, quel est ton mot préféré ? Au moins deux, trois, comme ça ?
Alors, liberté, amour, respect. Par rapport à ce qu'on a dit, je trouve que ça correspond.
Je pense que ça conclut bien. Alors, gardienne, c'est jusqu'... tu m'as dit jusqu'à fin mai, fin avril.
Alors, fin avril, ça va peut-être continuer après, mais pour l'instant, sûr, jusqu'à fin avril.
Si on veut suivre l'actualité de gardienne, le plus simple, c'est d'aller sur Facebook.
Alors oui, il y a une page Facebook, il y a un Instagram, il y a Twitter. Enfin,
il y a un Instagram où tu fais des photos comme ça, avec la bouche...
Mais alors, je ne suis pas très, 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 très forte pour tout ça. Donc, heureusement, j'ai... ma fille qui font parce que
c'est cool, t'as carrément des administrateurs quoi. c'est la folie, c'est...
Mais en fait j'ai la chance d'avoir plein de gens qui croient en ce projet et qui aiment ce spectacle et qui du coup j'arrête pas de croiser des gens qui veulent m'aider, c'est formidable.
Donc là c'est au studio Marie Belle,
oui
c'est ça, et il va y avoir un Avignon.
Oui, je reprends Avignon cette année pour la troisième année.
Toujours
Au
Théâtre du Trois Soleils.
Voilà, ça sera à 20h.
Super.
Ouais.
Toujours dans la même salle ?
Ouais.
Bon.
On ne change pas une équipe.
Et après, on verra. Donc, de toute façon, si on veut suivre ton actualité, le plus simple, c'est effectivement
sur Facebook.
Sur Facebook.
Gardienne la pièce.
Gardienne la pièce. Et puis, moi aussi, de toute façon, je m'en ferai l'écho. De toute façon, vu que.
Merci Lignon.
Mais je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir accepté ce long entretien.
J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises.
Mais non, t'as dit toi, c'était absolument pas des bêtises. Merci absolument. Quant à toi, à la compagnie, on se retrouve tout bientôt pour toute autre chose. D'ici là, porte-toi bien.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à partager cet épisode, à le commenter, ça m'aide beaucoup. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, salut la compagnie.